la loi de Dieu, qui s'en écarte, en termes bibliques, qui pêche. Et suite à ce péché, eh bien, le Seigneur les livre à l'oppression des peuples voisins, ces peuples dont ils n'ont pas fait le ménage, contrairement à ce que Dieu avait demandé. Et donc, ils sont opprimés, persécutés. Et quand ils voient ça, au bout de quelques années, ils se repentent, ils se retournent vers Dieu, demandent pardon, et Dieu les délivre. Il envoie un juge. Alors, un juge, ce n'est pas un magistrat qui vient rendre la justice, c'est plutôt un chef de clan, un chef militaire qui prend les choses en main et qui, avec l'aide de Dieu, avec l'esprit de Dieu, repousse les ennemis. Et derrière, grâce à cette victoire donnée par Dieu, ils connaissent une période de paix jusqu'à ce que le prochain cycle commence avec un nouveau péché, une nouvelle oppression, etc. Et même pire que cyclique, c'est un mouvement en spirale et en spirale descendante. Et vous allez le voir au cours de la série, plus on avance, moins ça va. Moins les juges sont fidèles, costauds, solides, et plus ça s'écarte de ce que Dieu voulait. Ce matin, avec Josué, je ne vais pas prêcher sur tout le récit, parce qu'il y a trois chapitres et même un quatrième, si on prend l'histoire du fils de Josué, merci Diane, de Gédéon. Je ne vais pas prêcher sur toute l'histoire de Gédéon, parce que, comme je disais, il y a trois chapitres et même quatre si on prend le fils de Gédéon. Mais je vous invite vraiment à lire ces chapitres, Juges 6, 7, 8 et 9, si vous voulez connaître l'histoire de son fils. Et on retrouve ce cycle. Au tout début, c'est chapitre 6, verset 1, le péché, puis le récit de l'oppression, avec cette fois-ci le peuple, les Madianites, qui viennent les opprimer. Et les Madianites, c'est des hordes de pillards qui viennent, qui prennent ce dont ils ont besoin, et puis ils brûlent le reste. On a eu ça en Europe avec les barbares qui sont venus après l'Empire romain. Et donc, ils ne sont pas commodes parce qu'ils ne sont pas seulement là pour dominer, mais vraiment pour piller. Et quand ils repartent, il ne reste plus rien. Et après, on voit un temps de repentance, plutôt de supplication plutôt que de repentance. Ils se tournent vers Dieu et ils supplient. C'est ce que dit le texte, chapitre 6, versets 7 à 10. Et Dieu envoie un prophète pour leur expliquer pourquoi ils sont comme ça. Ils sont comme ça dans cette situation-là parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Et c'est important, ce n'est pas juste un hasard. Dieu, il est en dialogue avec son peuple, il leur explique. Et à partir de là, la délivrance commence du chapitre 6, verset 11, jusqu'au chapitre 8, verset 21. On voit tout le ministère, tout le travail de Josué, de Gédéon. Je suis désolé, hein, pendant toute ma préparation, j'ai voulu mettre Josué. J'ai vérifié dans mes notes, il n'y avait aucun Josué, mais il revient quand même. Pendant tout le ministère de Gédéon, jusqu'à une période de paix où on nous dit que les Madianites ont été exterminés, qu'ils ne reviendront plus jamais. Donc vraiment un vrai succès militaire. Et on voit même le péché revenir, le début du cycle suivant recommencer, et même du vivant de Gédéon, ce péché revient. Et c'est triste, comme tout le livre des juges. Mais Philippe nous le disait la semaine dernière, ça rappelle aussi un peu comment on vit nous-mêmes et où on chute, là où on est déjà tombé et là où on s'est déjà relevé. Ce livre est tristement proche de ce qu'on vit. Je vais faire aussi un zoom sur l'histoire de Gédéon. Et j'ai l'impression que l'histoire de Gédéon, elle forme un V ou un V à l'envers. On part d'un endroit nul, rien ne va, et on monte jusqu'à un sommet, la victoire, et malheureusement, on redescend jusqu'à la nullité où rien ne va. On commence, c'est écrit petit, mais je vais le lire, on commence avec le peuple qui vit dans l'idolâtrie et l'oppression par les Madianites. Et là, on enchaîne sur un appel. Dieu appelle Gédéon pour aller délivrer son peuple. Et après cet appel, Gédéon demande un signe. Il n'est pas sûr de lui. Il veut la confirmation que Dieu est Dieu, qu'il est un Dieu puissant. Dieu lui donne ce signe Mais il lui demande aussi un signe de confiance. Il lui demande, lui, d'aller détruire l'autel de Baal qui se trouve dans son village, dans la maison de son père. Ensuite, on a ce verset 34 du chapitre 6 qui est beau, où on nous dit que l'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon. Et on voit Gédéon qui appelle le peuple à venir le rejoindre pour former une armée. Mais là, Gédéon, il a encore un besoin de certitude et par deux fois, il demande des signes à Dieu. Et peut-être vous connaissez ces signes, il s'agit des toisons, on parle souvent des toisons demandées par Gédéon. Globalement, il met une toison, un vêtement par terre et il demande à Dieu, demain matin, je veux que tout soit mouillé par la rosée, sauf la toison. Dieu le fait. Et le lendemain, il demande l'inverse, que tout soit sec, sauf la toison mouillée par la rosée. Et Dieu le fait. Mais Dieu demande aussi deux signes de confiance à Gédéon. Et par deux fois, il va lui demander de réduire la taille de la troupe qui l'accompagne. Je trouve ça intéressant de voir le parallèle. Chaque fois que Gédéon demande un signe à Dieu, Dieu lui donne. Mais chaque fois, Dieu lui demande aussi de prouver la confiance qu'il met en lui. Et là, on arrive au sommet, la victoire sur les Madianites. Avec un bonus, Dieu donne un signe gratuitement à Gédéon. Et il le rassure par un rêve qu'il entend fait par les soldats madianites. Et là, la victoire improbable avec juste des cruches et des flambeaux. Ils font du bruit, ils font peur aux madianites qui s'entretuent. Il n'y a rien à faire. C'est Dieu qui a donné la victoire. Malheureusement, on est au sommet et après ça, on descend. D'abord, les deux chefs s'enfuient. Gédéon fait appel aux Éphraïmites, c'est-à-dire des descendants d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm, pour leur demander de les attraper, ces deux chefs. Et ils le font, mais ils sont en contestation avec Gédéon. Du coup, Gédéon les calme en leur expliquant que ben, finalement, en attrapant les deux chefs, c'est eux qui ont fait le plus. Les habitants d'Éphraïm sont satisfaits, ils repartent, tout est calmé. Mais après, on continue. Gédéon continue à poursuivre, il y a encore deux chefs en fuite. Et dans sa poursuite, qui dure longtemps, ils sont fatigués, ils passent à travers deux villes qui refusent de les héberger et de les nourrir, lui et sa troupe. Ils refusent en disant, on ne sait pas si tu vas gagner. On ne sait pas si tu ne vas pas finir par te faire avoir et derrière, on aura des représailles. Et là, Gédéon, il gère carrément mal, puisque la première, il humilie ses chefs devant tout le monde et la deuxième, il la détruit et tue les habitants. Vous voyez le mouvement de descente. Et finalement, quand tout est fini, que la défaite est complète pour les Madianites, la victoire complète pour Israël, Israël aimerait que Gédéon devienne son roi. Gédéon dit non, il a raison, Dieu ne l'a pas mandaté pour cela. Mais quand même, il prélève un impôt et avec tout l'or qu'il a collecté, il fabrique un objet de culte et il introduit auprès du peuple un culte idolâtre. Du vivant de Gédéon, déjà, il s'éloigne de Dieu. Et à la mort de Gédéon, c'est fini. Dès sa mort, l'infidélité est là et le peuple ne se souvient même plus de Gédéon et participe au massacre de tous ses fils. Donc, une histoire à la fois stimulante, quand on voit l'ascension de Gédéon qui part d'un jeune homme craintif, et qui accepte de jouer le jeu de la confiance en Dieu pour aller jusqu'au bout, et à la fois une chute tellement triste, aussi triste que toute la progression qu'il avait eue avant. Je vous le redis, je vous invite vraiment à lire, prendre le temps de lire ces 3-4 chapitres. Ça ne prend pas longtemps, en 20 minutes, une demi-heure, vous l'avez lu, et souvenez-vous un peu de ce parcours et essayez de voir à la fois comment il fait bien pour l'appliquer dans vos vies et comment il fait mal pour éviter de l'appliquer dans vos vies. Mais ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur un épisode et parler plus précisément d'un épisode de la vie de Gédéon. Alors, est-ce qu'on va parler de l'ascension ou de la descente ? J'ai choisi de parler plutôt de l'ascension de Gédéon. Non pas que l'autre partie soit inintéressante. C'est celle-ci que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous ce matin. Et je vais lire au chapitre 6 à partir du verset 11. J'ai des juges, chapitre 6, verset 11. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne de Joash, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joash, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant combattant !» Gédéon répondit « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés ? Où sont donc ces actions extraordinaires dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte ? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit « Avec la force que tu as, va sauver Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon, comment pourrais-je sauver Israël ? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Le Seigneur déclara, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon reprit, « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit, « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Gédéon alla préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille, le jus dans un pot, il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. L'ange lui dit « Pose la viande sur le rocher, verse le jus par-dessus. » Et Gédéon obéit. L'ange du Seigneur étendit la main et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains et le feu jaillit du rocher et brûla totalement la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur et il s'écria « Ah, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face !» Mais le Seigneur lui dit « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et il l'appela le Seigneur de paix. Cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon « Prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré de la déesse Akhéra dressé à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré de la déesse Akhéra que tu auras coupé. » Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné, mais il le fit de nuit, car il avait peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Le matin, à leur réveil, les gens du village constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré dressé à côté avait été coupé et que le second taureau avait été offert en sacrifice complet sur l'autel nouvellement construit. « Qui a fait cela ?» se demandèrent-ils les uns aux autres. Ils se renseignèrent, firent des recherches et découvrirent que c'était Gédéon, fils de Joash. Ils dirent à Joash, « Amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré de la déesse Akhéra dressé à côté. » Joach répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours ? Celui qui défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. » Et à partir de ce moment-là, on appela Gédéon Yerubaal, c'est-à-dire que Baal se défende, à cause de la parole de Joash, que Baal se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. Voilà pour notre lecture ce matin, où on voit l'appel qui est lancé à Gédéon. Il y a beaucoup de récits d'appels dans la Bible et généralement, on aime bien les lire parce qu'on s'y retrouve. On se sent appelé par Dieu et du coup, on trouve des points d'accroche avec ce qui se passe. Et je crois qu'on a raison. Et sur ce récit en particulier, c'est un appel pour nous aussi. Dieu nous envoie, nous aussi. On pourrait reprendre le dialogue, le transposer pour nous. Le Seigneur est avec toi, commence l'ange. Il est venu sur terre sous la forme d'un homme. Il a donné sa vie pour pardonner tes péchés et que tu puisses renouer avec le Père. Par son esprit, il veut vivre en toi. Oui, le Seigneur est avec toi. Il nous appelle, non pas pour sauver Israël des Madianites, mais il nous appelle à travailler à l'avancement du royaume. Jésus appelle, suis-moi, sois mon disciple, je t'envoie. Car Dieu nous envoie, quelques-uns pour être pasteurs, missionnaires ou ministres à plein temps. Mais beaucoup également, il les envoie dans le monde, au travail, entouré de collègues, de clients, de fournisseurs, à l'école, à l'université, au collège, au lycée, entouré de camarades de classe ou de profs, à la maison, à la sortie de l'école, au goûter d'anniversaire, dans les cours d'immeubles, les réunions de quartier, dans un club de sport, dans tous les lieux. Jésus nous envoie. Et si vous étiez là mercredi à la réunion de prière, nous avons tenté de prier pour cela pendant notre semaine de prière. Que Dieu nous envoie et que nous ayons conscience de cet envoi là où nous sommes. Et j'irai même plus loin. Les promesses de Dieu pour Gédéon, nous les avons aussi. On voit que le Seigneur choisit Gédéon. L'ange n'est pas venu par hasard. Il est venu là et il s'est mis sous l'arbre de Joash, le père de Gédéon. C'est Gédéon qu'il cherchait. Et Paul nous dit que nous aussi, nous sommes cherchés, nous sommes appelés. Dieu les a choisis d'avance, écrit Paul en Romains 8, verset 29. Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son fils afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et sœurs. Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Il nous a appelés. Le Seigneur nous choisit. Comme pour Gédéon, le Seigneur a un plan pour nous. Le Seigneur a un plan pour Gédéon. Vaillant combattant, lui dit-il quand il le salue. Il y a Gédéon, là, il est là, planqué au fond de son puits à battre le blé, planqué pour ne pas être vu par les Madianites. Hein. Quand vous lirez le chapitre 6, vous voyez que c'est ce qu'Israël faisait. Tout le monde se planquait, ils ont creusé des cavernes et tout pour essayer de cacher un petit quelque chose que les Madianites ne prendraient pas. Mais l'ange du Seigneur, ce qu'il voit, ce n'est pas quelqu'un qui se planque, c'est un vaillant combattant. Il ne voit pas dans son état actuel, il le voit dans son plan, ce qu'il a prévu pour lui, ce qu'il est capable de faire. Et c'est le cas pour nous aussi. Paul, toujours lui, écrit aux Éphésiens, « Nous sommes l'œuvre de Dieu, il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a un plan pour nous. Il a préparé d'avance les œuvres bonnes et nous sommes sur la route pour aller les pratiquer. Et c'est ainsi qu'il nous voit, avec ce qu'il a prévu pour nous. Pas là où nous sommes, avec nos doutes, avec nos craintes, comme Gédéon. Et ensuite, on voit le Seigneur qui envoie Gédéon, va avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie, dit-il. Comme toi, tu m'as envoyé, dit Jésus à Dieu dans sa prière avant la Pâque, comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jésus nous a envoyés dans le monde. C'est intéressant de s'arrêter là-dessus et d'y réfléchir. Vous vous rendez compte ? La confiance que Jésus a en nous. Vous vous rendez compte que Jésus est allé au ciel et que c'est nous qu'il a laissé. La confiance et la responsabilité aussi que nous avons. Il compte sur nous. Et finalement, la force de Gédéon, c'est le Seigneur. Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites. Et Jésus, au moment où il quitte la terre pour aller vers le Père, ses dernières paroles dans l'évangile de Matthieu sont « Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avons le même appel que Gédéon. Le Seigneur nous a choisis, le Seigneur a un plan pour nous, le Seigneur nous envoie et notre force, c'est le Seigneur. Alors, il y a deux choses que j'aimerais relever de particulier dans l'appel que le Seigneur adresse à Gédéon. Deux choses et puis même une troisième. La première, quand on regarde bien le texte, c'est comment Dieu passe, invite Gédéon à passer du collectif à l'individuel. Et ça, on le voit bien dans les détails. Quand l'ange vient saluer Gédéon et lui dire « Le Seigneur est avec toi », vous avez vu ce que Gédéon répond ? Le Seigneur nous a abandonnés. Il est avec toi, le Seigneur nous a abandonnés. Il n'arrive pas à se sortir, à prendre cette parole pour lui-même. Il se voit dans la globalité. Mais le Seigneur y retourne. Avec la force que tu as, va. Et la réponse de Gédéon ? Mon clan, c'est le plus petit dans ma tribu. Ma famille, je suis le plus petit dans ma famille. J'aimerais bien pouvoir m'appuyer au moins sur eux, sur mon clan, sur ma famille. Non, c'est toi, dit le Seigneur. Je serai avec toi. Tu battras les Madianites tous ensemble. Et du coup, Gédéon lui demande ce signe. Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe. Puisque tu es là, montre-moi que tu es puissant. Montre-moi que ça vaut le coup de prendre ce risque de me détacher de mes solidarités, de me détacher de ma famille, de me détacher de mon peuple. Montre-moi que ça vaut le coup de te suivre. Et Dieu lui accorde ce signe, nous l'avons vu, pour lui donner confiance. Mais derrière, il lui demande aussi, lui, de lui donner un signe de confiance. Il lui demande de démolir l'autel de Baal. Je ne sais pas si on mesure un peu ce que c'est l'autel de Baal, ce que c'est une idole. Cette semaine, j'étais en formation et un de nos formateurs est allé plusieurs fois en Afrique. Et il dit, on ne sait pas ce que c'est. Il y a, dans cette culture, plus proche de la culture africaine, il y a des protections un peu partout. Et Baal, c'est celui qui protège. On ne sait pas bien si ça marche, mais quand même. On lui fait des offrandes au cas où. On a sa statue au cas où, on le révère au cas où. C'est le dieu de la localité, on ne veut pas le mettre en colère. Et quand le Seigneur demande de détruire l'autel de Baal, il lui demande de prendre un risque. Parce qu'il devient le traître. Il devient celui qui risque d'offenser la divinité locale. Et si ça se passe mal pour eux, ce sera de sa faute, parce qu'il l'aura offensé. Le Le Seigneur dit à Gédéon, je te demande de sortir de ton peuple, de ton clan, de ta famille, et de montrer que ta confiance, ta certitude, c'est sur moi que tu la reposes. De couper avec les autres certitudes. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous appelle, nous aussi, à sortir du collectif. Dieu nous appelle aussi à nous séparer des fausses sécurités de notre monde. De toutes ces injonctions qui nous disent qu'il faut faire ceci et cela, que si on a cette pratique, si on mange ceci, eh bien, on arrivera à échapper au cancer, on arrivera à échapper aux maladies, on arrivera à ceci, à cela. Toutes ces certitudes qu'on nous vend, Dieu nous demande de nous en séparer pour de ne pas mettre nos confiances en elles, pour mettre notre confiance en Dieu. Et vous allez peut-être dire que j'ai un problème avec l'argent, mais l'argent, c'est pareil. Dieu nous demande de ne pas mettre notre certitude dans l'argent, dans nos réserves, mais de mettre nos certitudes en lui. Ce n'est pas le plan d'épargne, le plan de retraite que nous allons faire qui va nous sauver et faire que nous ne manquerons de rien. C'est la providence du Seigneur. Nous aussi, il nous demande de mettre nos confiances, non pas dans ce que les lieux où tout le monde autour de nous met sa confiance, mais en lui et en lui seul. Il nous appelle à sortir du collectif pour trouver notre identité en lui. Lui qui a un plan pour nous. Lui qui veut nous conduire. Notre identité, elle est là, dans ce statut d'enfant de Dieu. Notre sécurité, elle est là. Pas dans ce que le monde nous offre. Ça, c'est la première chose que je remarque dans ce récit, à quel point cette idée de sortir du collectif pour se tenir seul devant Dieu est présente. La deuxième chose que je remarque, c'est la patience bienveillante de Dieu. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs appels dans la Bible, et peut-être vous vous souvenez de l'appel de Moïse. On l'avait étudié il y a quelques années dans les groupes de maison, et ça ne se passe pas très bien. Moïse met carrément Dieu en colère, qui lui dit « Écoute, ça suffit, maintenant t'y vas ». Ce n'était pas la même chose. Quand on relit l'appel de Moïse, Moïse fait tout pour éviter d'y aller. Là, Gédéon, il a peur, mais il est prêt à avancer doucement, pas à pas avec Dieu. Il demande un signe, Dieu lui donne. Il est prêt à avancer avec un signe de confiance. Et comme ça, il avance dans la confiance. Et du coup, je remarque cette patience de la part de Dieu. Il accueille les demandes de Gédéon. Il ne lui dit pas, écoute, je suis Dieu, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Non, il voit que Gédéon a besoin de ses preuves. Et pour Gédéon, il se met à son niveau et il lui donne. Il y a le signe initial, il y a les deux toisons ensuite. Mais en même temps, il demande à Gédéon de prouver sa confiance en détruisant l'autel de Baal, puis en diminuant ses effectifs. Et au lieu des milliers d'hommes qu'il avait rassemblés, c'est avec 300 qu'il va aller attaquer toute la horde madianite. Dieu accompagne Gédéon sur le chemin de la foi. Dieu ne rechigne pas à être mis à l'épreuve, il ne se fâche pas, il sait que Gédéon en a besoin. Et j'ai repensé à ce verset dans Malachie où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve. Allez-y, mettez-moi à l'épreuve et vous allez voir. » Dieu est patient, il prend le temps, à travers ses tests successifs, de faire grandir la foi de Gédéon. Et on arrive comme ça au test final de ce qu'on a lu, celui qui apparaît dans la bouche de Joash, le père de Gédéon. Si Baal est un dieu, qu'il le prouve. Et quelque part, il y a la question symétrique. Si le Seigneur est Dieu, qu'il le prouve. Baal ne prouvera rien du tout. Mais le Seigneur est prêt à prouver qu'il est Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que nous sommes prêts à exercer notre foi de la même façon que Gédéon l'a fait? Il y a des fois, on a une espèce de crainte, de peur de Dieu, on veut garder une distance, pas le vexer, on croit qu'il est tout-puissant, mais on ne lui demande pas trop de choses. Pourtant, il nous invite à le faire. Il nous invite à le tester. Mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir. Des fois, quand on discute avec des amis, on veut défendre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Oui, alors c'est parce que... Mais peut-être que la réponse, c'est juste, écoute, je sais qu'il est Dieu, mets-le à l'épreuve et tu vas voir. Est-ce qu'on a suffisamment de confiance en Dieu pour nous arrêter d'essayer de prouver qu'il est Dieu et le laisser lui-même prouver qu'il est Dieu? Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu vivant. Et c'est lui qui agit. Laissons-le agir. Laissons-lui la place. Et nous serons surpris de le voir agir. Je disais que j'avais peut-être une troisième chose à partager, une troisième chose que je retiens de ce récit. Cette troisième chose, elle est presque extérieure au récit. C'est la nécessité de la fidélité. Comme je l'ai dit, Gédéon, il commence très bien, il fait un super chemin pour arriver jusqu'au sommet, mais il finit mal. Et même si on n'a pas lu cette partie du texte, j'aimerais en dire un mot. Parce que le choix initial, le parcours initial avec Dieu, ce n'est pas tout. Et il est important de tenir ferme jusqu'au bout. Et quand on lit le récit de Gédéon et qu'on arrive à la fin du chapitre 8 et qu'on commence le chapitre 9 et on se dit mais quel dommage, c'est tellement triste. Et dans la Bible, il y a ces avertissements, pas qu'avec Gédéon. Il est possible, même après des exploits énormes pour Dieu, de mal tourner. Les exemples sont nombreux. Il y a Salomon, David qui n'est pas brillant, Noé, et il y en a d'autres encore. Et j'insiste, peut-être c'est la dernière fois, lisez ces quelques chapitres du livre des Juges pour en prendre conscience. J'aimerais terminer cette prédication avec une question. Dans le dialogue que Dieu a avec nous pour nous appeler, où nous arrêtons-nous? Est-ce qu'on s'arrête à la première question? Est-ce que quand Dieu nous choisit, qui nous dit « Le Seigneur est avec toi », qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce qu'on lui répond, est-ce qu'on s'arrête à cette réponse de Gédéon? Quand je vois le monde dans l'état dans lequel il est, comment est-ce que le Seigneur peut être avec nous? Quand je vois le malheur, la faim, la maladie, les innocents qui sont touchés, ce n'est pas possible qu'un Dieu d'amour existe. Le Seigneur n'est pas avec nous. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on va se mettre à l'écoute de Dieu? Quand Dieu dit qu'il a un plan pour nous, va avec la force que tu as. Est-ce qu'on va se cacher derrière notre faiblesse? Ma faiblesse, celle de ma famille, celle de mon église. Je suis dans une petite communauté. Je ne vais pas pouvoir changer le monde. Où est-ce que je suis prêt à entendre l'appel de Dieu pour moi? Qui m'appelle? Toi, suis-moi. Et quand Dieu nous envoie en disant « Vas-y, je serai avec toi », est-ce qu'on est prêt à se mettre en route, pas à pas, comme Gédéon, commencer par offrir mon offrande, puis me séparer de la génération dans laquelle je suis, puis aller là où Dieu m'envoie? Ou est-ce que je m'arrête à ce dialogue et que je reste à ma place. Dieu nous choisit. Le Seigneur est avec toi. Dieu a un plan pour nous. Va avec la force que tu as. Dieu nous envoie. Je serai avec toi. Jusqu'où allons-nous avec lui ? Je vous laisse avec cette question.